Karim Khan, le procureur de la Cour internationale de justice, qui avait requis contre Benjamin Netanyahou, Yoav Gallant du côté israélien et Yahya Sinwar et Mohamed Def sur du côté du Hamas des mandats d'arrêt internationaux. Bien, on va revenir là-dessus puisque la Chambre des représentants américaine a décidé et a voté un projet de loi pour sanctionner cette Cour pénale internationale et donc son procureur Karim Khan. On revient là-dessus avec Jean-Éric Brana, il est maître de conférence à l'université Panthéon-Assas à Paris et il est spécialiste des États-Unis. On l'écoute, il est au micro de Lucie Gilson.
Jean-Éric Brana, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à Assas et spécialiste des États-Unis. Alors, la Chambre des représentants des États-Unis a approuvé hier un projet de loi visant à imposer des sanctions à la Cour pénale internationale à l'encontre de Karim Khan, son procureur, qui avait mis en accusation Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant pour crimes de guerre au même titre que Yahya Sinwar. Est-ce une manière pour les États-Unis de signifier qu'ils continuent à soutenir pleinement Israël?
Alors, d'abord, c'est une situation très compliquée. D'abord, oui, le soutien à Israël est très fort. Je ne dis pas total, puisque, vous le savez, il y a des députés qui se sont distingués, notamment ceux qu'on appelle le Squad, donc à l'extrême gauche, avec bien sûr Rachida Tlaib, qui est d'origine palestinienne, on s'y attendait, mais d'autres autour d'elle. Même des éminents comme Bernie Sanders qui a expliqué qu'il ne pouvait pas supporter la politique de Netanyahou et que là, ça avait été trop loin. Encore une fois, ce n'est pas les seuls, mais globalement, c'est vrai que les députés et sénateurs votent comme un seul homme s'il s'agit d'un soutien à Israël. Et d'ailleurs, l'invitation qui est lancée de façon bipartisane par les deux chambres du Congrès à Netanyahou pour venir parler devant un congrès réuni en deux chambres, montre que ce soutien est fort et qu'il ne pose pas de problème. Maintenant, cette question de la CPI soulève un certain nombre de questions. Alors, il y a d'une part, dans un contexte électoral, une part de manipulation évidente, donc on va à l'évacuer tout de suite. Bien sûr, il s'agit pour les républicains qui soutiennent Donald Trump de mettre en porte-à-faux Joe Biden en expliquant que il va soutenir une institution qui veut du mal aux États-Unis et à Israël. Et le fait est que Joe Biden ne soutient pas les sanctions qui sont proposées par le Congrès. Sanctions qui, on va le dire aussi tout de suite, n'ont aucune chance de passer puisqu'il faudrait qu'elles passent le Sénat et ça ne se fera pas. Et que même si d'aventure cela se faisait, il faut encore que le président signe ces sanctions, ce texte de loi. Et il ne le signera pas, il l'a annoncé. Et il faudrait donc une majorité introuvable de 2/3 de chaque chambre pour pouvoir renverser la décision du président. Et là, encore une fois, ça ne se trouvera pas. Mais il s'impose aussi un autre problème qui a été soulevé par pas mal d'élus, qui est l'indépendance des États, que ce soit les États-Unis ou Israël, de se soumettre à une entité internationale qu'ils ne reconnaissent pas. Qu'ils ne reconnaissent pas. Ils n'en font pas partie, même s'ils ne se reconnaissent pas. Je me suis surpris parce qu'en réalité, ils ont soutenu la plupart des décisions de la CPI ces dernières années et que globalement, les États-Unis sont un grand contributeur à la création d'instances internationales. Je mets à part le mandat de Donald Trump qui, de ce côté-là, se distingue fortement du reste de l'histoire américaine, mais globalement, les Américains estiment que ça va dans le bon sens quand on travaille tous en commun pour essayer d'œuvrer à la paix, la prospérité et la justice.
Et alors, du coup, est-ce que cela pourrait avoir une influence sur les négociations en cours sous la houlette des États-Unis? On l'a vu ces derniers jours avec la présentation du plan Biden, enfin de cette proposition d'accord qui a été renommée plan Biden. Donc, est-ce que ça pourrait influencer les négociations en cours?
Alors, le fait même que vous signaliez que ça a été renommé plan Biden montre que c'est sur une mauvaise voie. Puisque si on l'avait appelé plan de paix unanime sur on y croirait. Là, on a tendance à ne plus y croire et à se dire qu'il suffit presque que Biden l'ait proposé, qu'il en ait fait une déclaration solennelle pour que le projet prenne l'eau. Et d'ailleurs, on voit que le Premier ministre israélien commence à tirer un peu à vue sur ce plan en expliquant que c'est pas si simple et que il y a aussi le Hezbollah et puis il y a bon voilà c'est l'art de la guerre et les difficultés de la guerre c'est qu'en réalité il y a tant de fils à dénouer. Ça me fait penser au plan Blair avec l'Irlande il y a quelques années hein, mais qu'on pensait ingérable et qu'on n'en sortirait jamais. Et il a fallu qu'un jour Tony Blair explique que de toute façon, il y avait tellement de morts des deux côtés, que tout le monde connaissait un mort dans une famille, qu'à un moment, il fallait le dépasser si on voulait la paix et si on voulait qu'il n'y ait pas plus de morts. Et je crois qu'à un moment, il faudra ce type de parole dans ce conflit, parce que sinon, on va à l'éradication d'un groupe. Parce qu'à part ça, il y aura toujours de la méfiance, bien sûr, qui sera présente. Mais pour l'instant, sur le plan politique, on est plutôt, pour répondre concrètement à votre question, parce que je ne l'évacue pas, on est plutôt dans la partie que j'avais appelée manipulatrice de l'affaire, puisque ça sert d'alibi, évidemment, aux républicains pour tirer à vue, là aussi, en expliquant qu'ils soutiennent Israël, mais pas que. Mais pas que, parce que ce soutien à Israël, il est quand même très fort de la part de pas mal d'élus, notamment républicains, hein. Et on l'a vu avec la visite de Nikki Haley sur place, et notamment cette signature sur une obus quand elle dit achevez-les, qui représente un état d'esprit présent, notamment chez les néoconservateurs. Alors pas chez les Trumpistes pour le coup, même s'ils soutiennent beaucoup Israël, ils ne sont pas dans cette logique-là, mais les néoconservateurs le sont. Ils l'ont toujours été. Et là, il y a, je crois quand même, avec ce plan de la CPI, cette proposition, quelque chose qui les heurte terriblement.
Alors, vous l'avez dit, l'administration Biden s'oppose à ce projet de loi. Bon, après, c'est un peu ambigu parce qu'il a déclaré qu'il ne mettrait pas forcément son veto non plus. Est-ce que cela signifie que on comprend bien qu'il y a une machination électorale derrière ça, parce que le pays est quand même en pleine campagne électorale? Mais est-ce que cela signifie que la question du Proche-Orient devient un incontournable dans cette campagne, justement?
Je ne le crois pas. Je continue à ne pas le croire, plutôt, je vais le dire comme ça, puisque ça fait un petit moment que je le dis. Alors que que Gaza et Israël soient des sujets de conversation dans la campagne, c'est certain. Bon, bah, ce serait idiot de dire le contraire. Est-ce que c'est la question qui se pose, du moins je la reformule et vous me direz si je me trompe dans la compréhension que j'en ai, c'est est-ce que les Américains vont aller voter en ayant Gaza et Israël dans leur tête? Et que ça donc, va donc décider du choix du président, Trump ou Biden, ou un autre, puisqu'il y a d'autres candidats, au vu de cette question. Et on est bien d'accord, c'est la question que vous me posez. Là, je dis non. Parce que la condition même du vote est beaucoup plus locale que nationale et beaucoup plus locale, encore fortiori, qu'internationale. Je vais prendre un exemple qui est très concret et très clair, hein. C'est cette nuit, il y a eu des primaires un peu partout aux États-Unis. Au Nouveau-Mexique, Joe Biden perd 17% de son électorat. Ce serait idiot et ridicule de penser qu'au Nouveau-Mexique, les électeurs sont allés voter, même les jeunes, avec Gaza en tête, parce que c'est tellement loin et tellement loin d'eux que, et puis il n'y a pas un fort électorat juif ou musulman dans cet État. C'est donc ailleurs qu'il a perdu des voix. Et en l'espèce, dans cet État, c'est sur l'immigration et c'est sur le niveau de vie, l'inflation. Et on peut continuer comme ça sur les 50 États. Alors c'est vrai qu'en revanche, dans le Dakota, où il y a aussi un vote et où il perd des voix, c'est plutôt la porosité avec le Minnesota voisin, qui lui-même est voisin du Wisconsin et du Michigan, où là, on a une forte discussion sur Israël, que Biden perd des voix. sur son extrême gauche. Et donc là, oui, ça va jouer un petit peu, mais ça va jouer à la marge, parce que ceux qui sont dans ces mouvements représentent 6, 7, jusqu'à 10% dans certains États comme le Michigan ou le Wisconsin, mais ça va pas au-delà de ça. Et dans ces États-là en particulier, oui, il va y avoir un problème puisque le vote est très serré. Globalement, sur les États-Unis, non, ça aura pas d'influence. Donc, pour conclure, Gaza est un sujet de conversation, mais n'est pas un sujet de vote. En revanche, il est un sujet qui empêche de voter, parce qu'on parle tellement de Gaza et d'Israël qu'on ne parle pas du reste, à savoir la vie quotidienne des gens. Et c'est bien ce qui les intéresse en premier. Et donc, les républicains entretiennent cette conversation, parce qu'elle permet aussi de ne pas arriver sur d'autres sujets, notamment, je parlais d'inflation, qui est en train d'aller mieux, mais très lentement. Et le ressenti des Américains étant très mauvais, il faut entretenir ce très mauvais. Et donc empêcher qu'on rentre dans les détails et qu'on leur montre que c'est en train d'aller mieux. Donc Gaza et Israël servent de palliatifs ou de dérivatifs plutôt aux républicains et donc permettent de faire une conversation très fournie, très lourde, très chaude aussi, mais qui, à mon sens, ne va pas décider du vote.
Le directeur de la CIA, William Burns, et l'envoyé spécial, Brett McCurk, sont actuellement en visite au Moyen-Orient. Donc, il y a eu, en fait, on a quand même des déclarations contradictoires sur l'aboutissement de ces négociations, de ce plan Biden que vous avez évoqué justement, ces négociations ou des chances d'aboutir. Est-ce que c'est une indication qu'il y a un écueil quelque part?
Écoutez, moi je vais vous dire, je l'espère. Comment est-ce qu'on ne peut pas espérer qu'il y ait un cessez-le-feu et que la paix se réinstalle quelque part? Il faut vraiment être assez tordu pour vouloir autre chose. Maintenant, c'est vrai que de voir tous ces envoyés spéciaux qui se succèdent les uns aux autres, les déclarations des uns et des autres, moi je ne suis pas dans le secret des dieux, j'ai pas de renseignements militaires à vous dévoiler ou à vous révéler, je ne les ai pas. Je vous dis très franchement, mais ce que j'entends par contre, c'est que les déclarations sont pas encourageantes. Alors là aussi, d'expérience, des déclarations pas encourageantes, on en a eu avec de très bons résultats derrière. C'est aussi le jeu de pas donner à l'adversaire de quoi avancer et que tout le monde arrive un peu en vainqueur à la table à chaque fois et ne fasse pas de la surenchère. Faut attendre.
Eh bien, Jean-Éric Brana, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à ATAS et spécialiste des États-Unis. Merci pour cet éclairage sur les nouvelles actualités et les relations entre les États-Unis et Israël. Et à bientôt.